Donc je vais faire à partir de aujourd'hui pour les trois cours, les deux autres cours, quelque chose que je n'ai jamais fait ici, puisque je me contente d'habitude de rester sur la question chinoise, que on pourrait dire je connais, c'est ce que je connais le mieux, en tout cas le plus précisément. Et là pour ces trois cours, donc j'avais envie cette année de sortir un petit peu de ma spécialité, et de me souvenir, comme je disais l'autre fois, que je suis aussi quand même spécialiste de sciences politiques, et que surtout je suis très intéressé par l'histoire, à la fois du mouvement ouvrier, mais aussi, disons, l'histoire politique de manière plus générale de l'Europe, depuis le 19e siècle, et que, voilà, pour un petit peu diversifier mes interventions, mais aussi sans doute pour diversifier aussi la programmation, on pourrait dire, des cours de cette année, de parler de choses un petit peu différentes. Et alors par hasard ça tombe finalement bien, puisque c'est un petit peu dans, non pas dans le prolongement on pourrait dire des cours de Corcuff, mais plutôt en amont des cours de Corcuff, parce que finalement globalement Corcuff, alors bon il les a donnés avant, bon c'est comme ça, ça fait rien, traite des questions un peu de mélange de la gauche et de la droite, enfin des espèces de frontières parfois extrêmement poreuses entre ces deux éléments. Donc lui, il a parlé d'un certain nombre de gens, mais contemporains, des gens qui aujourd'hui publient. Moi, je parlerai de l'histoire parce qu'il me semble que précisément ce que l'on peut vivre par certains côtés aujourd'hui, c'est quelque chose qui est apparu au XIXe siècle. Ce que je voudrais un petit peu montrer, c'est remettre en cause l'image d'une gauche française et d'une droite française parfaitement, on pourrait dire, imperméables l'une à l'autre, que les idées de la gauche et les idées de la droite seraient tout à fait, on pourrait absolument pas les mélanger. On a là deux domaines qui sont très forts. Quand on voit l'histoire politique, quand on voit aujourd'hui les débats, il y a aussi cette idée qu'il y a des valeurs de gauche, il y a des valeurs de droite, et que les deux choses sont vraiment totalement séparées. D'un côté, on a à droite, on pourrait dire un certain nationalisme, un sentiment, disons, de protection du territoire, des références à l'importance du terroir, à l'importance du sang, on pourrait dire, à l'importance aussi donc de la préservation du territoire national et des particularités, on pourrait dire, du pays. On a aussi l'idée globalement quand même dans la droite que les hommes sont inégaux, le principe général d'égalité ne s'applique pas à l'humanité, que naturellement, on pourrait dire, il y a des gens qui sont en haut de l'échelle et des gens qui sont en bas de l'échelle. On a aussi, mais là on évolue vers une droite un petit peu plus radicale, on pourrait dire, des thèmes comme le racisme, de thèmes comme l'antisémitisme, qui seraient des thèmes aussi de droite, ou disons entre la jonction de la droite et de l'extrême droite. Les débats actuels montrent que parfois on est sur un équilibre parfois précaire entre ces deux éléments, puisque précisément des gens qui se réclament de la droite disent mais non, si on franchit le seuil du racisme et de l'antisémitisme, on n'est plus dans la droite, on est dans l'extrême droite, mais d'autres semblent un petit peu quand même mélanger les choses, etc. Donc en tout cas il y a des débats, mais enfin ce sur quoi il n'y a pas des débats, je crois, c'est sur ces différentes idées. C'est la famille aussi qui est un élément important. Il y a des éléments qui seraient forts de la droite, tandis que la gauche, elle, on pourrait dire le socialisme, parce que le terme de socialisme, je vous le rappelle quand même, est toujours un élément qui détermine aujourd'hui la gauche française. On a un parti qui s'appelle le Parti Socialiste, je vous le rappelle, que les radicaux de gauche sont toujours quand même des radicaux socialistes, hein, enfin, même si on dit maintenant radicaux de gauche, il y a toujours le terme de socialiste qui est là. Si on continue, ben, on va du côté du Parti communiste. Le Parti communiste, c'est un parti socialiste, hein, on pourrait dire, hein, globalement. Bon, le Parti de gauche aussi, hein, est un parti qui, si on le traite de socialiste, je ne crois pas qu'il va, les gens vont sauter en l'air en disant « mais pas du tout, nous ne sommes pas socialistes », etc., etc. Bon. Même si le terme est bizarrement moins employé finalement à l'extrême gauche aujourd'hui finalement que la gauche, je dirais modérée. Hein. Donc gauche, socialisme, vous voyez. Donc vous verrez que je vais parler à la fois de la gauche et du socialisme, hein, des termes qui sont pour moi pas complètement identiques, mais enfin quand même extrêmement extrêmement liés. Alors la gauche, qu'est-ce qu'elle, ou le socialisme, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime des valeurs universelles, hein, dans notre imaginaire. Là, on s'oppose aux valeurs de droite, qui seraient des valeurs plus localistes, hein, plus liées donc plus à un territoire, etc. Là, on serait dans le domaine des valeurs universelles, de la République, hein, bien sûr, de la démocratie. Hein, on aurait une adéquation totale entre la démocratie et la gauche. Hein. C'est le peuple, hein, qui est la référence, et le peuple donc qui va élire ses représentants. Hein. On a dans cette idée quelque chose de très fort, donc qui s'oppose un peu quand même à l'élitisme, on pourrait dire, de la droite. Voilà, qui est, bon, on dit par exemple, hein, le Sénat, c'est plutôt une chambre de enfin, la conception du Sénat, c'est plutôt de droite, parce que c'est des territoires, parce que c'est indirect, parce que on contrôle quand même les choses, tandis que l'Assemblée nationale, bah, c'est quand même vraiment, hein, les vraies valeurs démocratiques, etc., etc. Il y a aussi, évidemment, dans la gauche, et c'est extrêmement important, les notions de justice sociale, d'égalité sociale, bien qu'aujourd'hui, évidemment, les choses sont un petit peu plus compliquées, hein, d'idée qu'il faut qu'il y ait une justice sociale globale, c'est-à-dire que finalement, chacun doit avoir les moyens de vivre, chacun doit être protégé, et doit être protégé par, normalement, la société. Hein, alors que normalement à droite c'est plus normalement du recours à l'individu, de recours à, on pourrait dire, la famille, à des réseaux, enfin à des choses moins sociales, on pourrait dire, qui jouent un rôle très important. Et puis, dernier élément quand même qui est lié à, je crois, à la gauche traditionnellement, en France en tout cas, c'est d'une certaine façon, et là on retombe sur les questions d'universalité, c'est les questions d'internationalisme d'une certaine façon. C'est-à-dire que finalement, il y a évidemment le territoire français, mais ce qui est important aussi, c'est que ce qui se passe dans le monde, les idées, hein, qui circulent, on parle d'international socialiste, hein, le parti socialiste pendant très longtemps s'est appelé section française de l'internationale ouvrière, le parti communiste, lui, était lié au Comintern, hein, pendant un certain nombre de temps, il y a la célèbre injonction, hein, qui symbolise le socialisme d'une certaine façon, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, donc il y a cette image d'universalité du prolétariat, hein, c'est pas une donnée nationale, non, vraiment, c'est une donnée beaucoup plus grande. Il y a les questions de lutte des classes, qui sont dans notre inconscient, en tout cas, des luttes de classe internationales. Hein, c'est, voilà, on a des situations à peu près comparables dans les différents pays capitalistes. Donc, on a dans notre inconscient, je crois, des oppositions qui sont relativement fortes entre ces deux blocs. À telle enseigne, d'ailleurs, que on les oppose tellement que on insiste sur le fait que il n'y a pas eu de grand mouvement fasciste en France. Hein, c'est-à-dire que finalement, l'extrême droite n'a pas pu se développer tellement en France. Il y a eu les ligues, etc. Mais on n'a jamais eu de véritable régime fasciste, on pourrait dire. Évidemment, on a la parenthèse pétiniste. Mais bon, est-ce que Pétain était vraiment un fasciste ou pas? Bon, les fascistes français, les vrais fascistes français, on a été persuadés du contraire. Hein, les gens comme Doriot, les gens comme Déa trouvaient qu'au contraire, Pétain était un peu mou et un peu traditionnaliste pour être évidemment un fasciste. Ça n'a pas duré longtemps, puis c'est quand même très très lié à l'occupation, hein, pour dire. C'est pas un régime, on pourrait dire, qui serait un régime, je dirais, authentiquement français, hein, on pourrait dire. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, voilà, une des particularités de la France, c'est qu'il n'y a pas de mélange, hein, particulier entre le nationalisme et le socialisme. Parce que finalement, qu'est-ce que sont les fascismes ? Le fascisme, c'est le mélange du nationalisme pour le socialisme. On pourrait dire, en se moquant un peu de Joseph Staline, que c'est le socialisme dans un seul pays, le fascisme finalement. Hein, puisque dans tous les régimes fascistes, il y a cette référence au peuple, à la justice sociale. Hein, à une certaine forme d'égalité, bon, de l'égalité dans la hiérarchie sociale, etc., mais d'une certaine forme d'égalité dans le sens où tout le monde doit être protégé, etc. Il y a les institutions corporatistes, etc., le Front du Travail en Allemagne nazie. Donc, dans tous ces régimes, disons, qui sont d'extrême droite, hein, les régimes fascistes, il y a cette idée que on peut mélanger deux choses qui, d'après ce que je viens de dire, ne peuvent pas se mélanger. Hein. D'un côté, le nationalisme, hein, et la réflexion à la terre, au sang, etc. De l'autre côté, hein, le socialisme, hein, qui sont apparemment des... Donc là, la France sera d'une certaine façon une exception. Il y en a quand même beaucoup des exceptions, mais il y a eu une parenthèse fascisante ou fasciste en Espagne, en Allemagne, en Italie, même à l'Est, il y a eu des choses, etc. Bon, et Angleterre, qui n'est pas, etc., etc. Et on voit bien, encore aujourd'hui, d'une certaine façon, dans le Front National, hein, quand on regarde un peu aujourd'hui le programme du Front National, il y a cette volonté, hein, de lier le national et le social. Hein. Alors, gens disent c'est tactique, c'est etc., c'est pour que les gens votent, etc. Oui, bien sûr, mais enfin, bon, évidemment, si Mussolini parle de socialisme, c'est aussi évidemment parce que il veut qu'il y ait un soutien. Hein. C'est difficile de prendre le pouvoir dans un pays quand on dit, bah non, le peuple, on va le fouler aux pieds, il va être encore plus malheureux qu'il n'est aujourd'hui, etc. C'est quand même. Alors c'est peut-être tactique, évidemment, mais enfin, bon. Dans ce cas-là, tout le monde est un peu tactique, puisque quand même, il y a quand même, voilà, cette référence qui est donc. C'est ce lien entre eux. En même temps, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on redécouvre depuis quelques années, maintenant depuis une trentaine à peu près d'années, en fait, un certain nombre d'historiens, notamment un historien connu qui s'appelle Ziv Stern-El, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer aujourd'hui, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle « La droite révolutionnaire », un autre qui s'appelle « Ni droite ni gauche », hein, ce qui veut dire à la fois droite et gauche d'ailleurs, on va le voir, tout un tas d'historiens, hein, de vrais historiens, hein, je ne vous parle pas là, de militants, je vous parle, etc. Il y a tout un débat, aussi quelqu'un qui s'appelle Michel Dreyfus, que vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler, qui a créé un bouquin sur l'antisémitisme de gauche, hein, une histoire un peu de l'antisémitisme de gauche. Donc il y a des historiens qui retravaillent en fait ces questions de lien entre la droite et la gauche. C'est-à-dire de moments, chez des auteurs, mais dans des mouvements sociaux aussi, où le nationalisme et le socialisme, hein, viennent s'articuler les uns aux autres. Hein. Et on avait un petit peu, on avait oublié ça, hein, où on voulait se donner bonne conscience, on considérait que, etc., les choses. Bon. Il y a eu des travaux aussi sur l'affaire Dreyfus, par exemple, qui ont montré que, contrairement à ce qu'on dit souvent, on n'a pas d'un côté les Dreyfusards de droite, les anti-Dreyfusards de droite, et les Dreyfusards de gauche, que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a toute une partie de la gauche, hein, qui était plutôt anti-Dreyfusard, par antisémitisme, par exemple, mais aussi par critique de l'armée, par exemple, hein, une partie de la droite, d'ailleurs, qui était plutôt des fusards, etc. Donc, voilà, des frontières qui sont un petit peu floues. Donc, ce que je vais essayer de faire précisément, c'est de vous montrer à travers l'histoire un peu du socialisme, comment, chez certains auteurs, ou à certains moments, le nationalisme, et parfois le nationalisme le plus radical, cohabite assez bien avec le socialisme, sans que l'on puisse les traiter de fascistes, parce que précisément, quand on voit l'histoire du socialisme, ils sont toujours rangés, ces gens-là, dans on peut dire, la case de gauche, hein, même si c'est une gauche un petit peu particulière. En fait, ce sera qu'à partir des années 30, vraiment, que l'on aura la constitution de ce que l'on pourrait appeler un fascisme à la française, hein, autour des ligues, évidemment, d'extrême droite, mais aussi autour de phénomènes, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler lors du dernier cours, autour de ce qui s'est passé précisément au moment du pétainisme, hein, au moment de l'État français, où on voit autour de Pétain des gens de gauche, hein, des socialistes, des communistes, des syndicalistes, etc., qui vont venir travailler avec Pétain, voire même entrer dans les partis fascistes de l'époque. Là, on a vraiment constitution d'une véritable idéologie fasciste construite où on mêle le nationalisme et le socialisme. Et on va le voir que jusqu'à la Première Guerre mondiale, même après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une espèce de milieu nationaliste-socialiste, mais que dans le mouvement socialiste, il y a une forte connotation de l'idée nationale, hein. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et je crois que cette question-là est liée, en fait, à la question de la définition du socialisme, et surtout de la réalisation du socialisme. C'est-à-dire que tous les penseurs socialistes, mais aussi les praticiens, les révolutionnaires, etc., se posent des questions suivantes. Ils se posent des questions de comment faire la révolution socialiste, où faire la révolution socialiste, grâce à qui faire la révolution socialiste, et toutes ces questions, à un moment donné, rencontrent deux éléments très importants. C'est d'une part l'idée de nation, c'est-à-dire que l'idée de nation dans la révolution socialiste, qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, hein, elle prend quelle place, et la question de la République, hein, qui est une question aussi très complexe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la République, qu'est-ce qu'on fait de la démocratie, hein, dans la révolution socialiste. Hein, nous, ça nous apparaît comme ça de l'extérieur relativement simple. Le socialisme, c'est tout le peuple qui décide, le socialisme, etc. Ouais, mais bon, on voit bien que c'est pas aussi simple que ça, que bon, on attend toujours le grand soir, que c'est pas aussi évident que ça, etc. Donc, que cette idée que, de toute façon, naturellement, le socialisme va se mettre en branle, c'est une idée qui est pas très, très simple à penser, hein. Précisément, c'est, on va le voir, une idée qui est beaucoup plus liée là au marxisme, hein, c'est-à-dire cette idée que dans l'histoire, il y a un sens de l'histoire et que de toute façon, le socialisme va apparaître parce que, on pourrait dire que le matérialisme historique, les règles de la vie, de l'évolution historique, amènera les gens logiquement au socialisme, hein, et qu'il n'y a pas tellement à faire d'efforts, non, hein, mais plutôt de se laisser porter par l'histoire. Cette idée-là, hein, a beaucoup de mal à penser, à passer dans l'esprit des dirigeants du socialisme français qui, on va le voir précisément, est très très particulière. Donc, cette question de la nation est extrêmement importante. Je dirais d'ailleurs qu'elle est tellement importante que le 4 août 1914 est une date absolument majeure pour l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste en France. Qu'est-ce que c'est le 4 août 1914 ben, c'est la date de la, si ma mémoire est bonne, la date de l'enterrement de Jaurès, hein, on en a beaucoup parlé. Et sur la tombe de Jaurès, Jouot, hein, le grand Jouot, le chef hein, du socialisme, on pourrait dire, déclare que hein, l'ennemi du socialisme français, on pourrait dire, ce n'est pas le peuple allemand, mais c'est l'impérialisme allemand. Ce qui est une façon de dire très clairement que l'internationalisme s'est terminé, que maintenant c'est la nation française qui compte et que on va soutenir la guerre contre l'Allemagne. Et que l'on va rompre avec cette idée, donc jaurésienne, de l'internationalisme, hein, qui était minoritaire malgré tout dans le mouvement socialiste, qui existait mais qui était très minoritaire dans ce mouvement socialiste. Jaurès mort, on retombe finalement d'une certaine façon dans une certaine logique en disant finalement l'intérêt de l'ouvrier français c'est quoi ? Eh bien, c'est de s'opposer à l'impérialisme allemand et non de s'allier. C'est la fin de l'internationalisme. Hein. Alors, l'internationalisme va repartir un petit peu avec le Comintern, hein, avec la scission à l'intérieur du mouvement socialiste, la création des partis communistes, etc., etc. Mais comme on le sait, très rapidement, cette idée internationaliste va retomber. Pourquoi ? Ben parce que l'URSS va avoir une idée très particulière de l'internationalisme, c'est l'internationalisme à son profit. Hein. Et donc le Comintern va très rapidement devenir en fait une machine de guerre de l'Union soviétique au profit de l'Union soviétique et pas du tout au profit des grands idéaux, on pourrait dire, de la libération, hein, de l'internationalisme prolétarien, etc., etc. C'est pour ça que je dis finalement le 4 août 1914, c'est une date importante, parce que finalement c'est la fin de cet internationalisme. Hein. On n'aura plus tellement l'occasion hein, de retrouver cette grande idée que finalement la contradiction fondamentale dans la société capitaliste, c'est celle entre le prolétariat et la bourgeoisie, et que toutes les autres oppositions, nationales, etc., tout ça, ça ne vaut rien du tout. Hein. C'est pas ça à quoi il faut s'intéresser. Alors, première étape de ce que je voudrais vous dire ici, c'est le début du socialisme à la française. Hein. Donc ça, c'est aussi c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ce terme donc de socialisme qui apparaît hein, au début enfin, du 19e siècle, enfin, au début un petit peu après, hein, les années 1820, 1830, 1840, hein, on commence à parler de socialisme, précisément va rencontrer cette question nationale relativement vite. Déjà, je vous signale qu'au moment de la Révolution française, il y a une contradiction entre les idéaux universels et la réalité nationale. Bien sûr, la République, la démocratie, la France, phare de l'humanité, machin, etc. Bon, en même temps, il faut dire que au moment du Directoire, on est toujours dans la Révolution française, la libération des peuples, c'était aussi le contrôle d'un certain nombre de territoires par la nation française aussi. Hein. C'est-à-dire que l'affirmation de la nation française, c'était, paraît-il, aussi l'affirmation des grands idéaux de la Révolution française, mais en même temps, les intérêts de la nation étaient loin d'être négligés. De la même façon, Napoléon, qui s'est toujours considéré comme un héritier de la Révolution française et de ses idéaux, hein, c'était quelqu'un qui n'était pas spécialement pour la liberté des peuples. Hein, non, hein. On a vu ça en Espagne, on a vu ça dans tout un tas de contraires. Il a contribué très fortement hein, ensuite au congrès de Vienne en 1814 à faire en sorte que finalement la question des nationalités commence à s'imposer. Donc on voit bien là, même avant le socialisme, qu'il y a un petit peu de problème, de contradiction entre idéaux universels et puis la nation qui porte ses idéaux universels. Vous voyez, qui sont un petit peu... Bon, on retrouvera ça dans la colonisation, je vous le rappelle, hein, aussi. C'est-à-dire que la France, phare de la démocratie, phare des Lumières, va coloniser pour leur bien un certain nombre de populations. C'est toujours pour leur bien, c'est toujours pour leur émancipation. Hein. Lisez Jules Ferry. Alors ce matin, j'ai écouté, ou hier, je sais plus, il y avait Mona Ozouf qui écrit un livre sur Jules Ferry qui dit que oui, enfin tout ça, c'est pas très très important. Enfin quand même, déclaration de Jules Ferry, notamment je crois en 1885, expliquant que la France devait dans la colonisation, c'était quoi en gros? C'était permettre l'émancipation des peuples. Barbares. Voilà. Bon. Il faut les aider à sortir de leur barbarie, etc., etc. Donc on voit bien que intérêts nationaux, et puis là, mais on n'est pas dans le socialisme, je le reconnais, bien que, bon, les radicaux sont quand même un peu aussi liés à ça. Alors, encore plus socialiste, on pourrait dire. Regardons ce qui se passe du côté du socialisme utopique. Vous savez, ces personnages, donc, qui, Charles Fourier, par exemple, et puis tout un tas de gens qui inventent un socialisme dans la première moitié du 19e siècle, qui critiquent le capitalisme, qui sont extrêmement anti-bourgeois, etc., etc. Ce qui est frappant chez des personnages comme Fourier, Proudhon, ou Blanqui, qui sont des gens liés plus ou moins au socialisme utopique, ou en tout cas dans le prolongement de cette idée d'invention d'un nouveau système, c'est vision quand même relativement nationale des choses. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a l'idée ou une réflexion sur une organisation, on pourrait dire, universelle de la société. Ce sur quoi on se base sur la création d'entités, de petites entités, donc des phalanstères, des groupements de gens qui se mettent ensemble, etc., pour vivre ensemble dans la justice sociale, l'égalité, ou etc. Donc des gens qui vivent dans l'autarcie, on produit, on consomme ce que l'on produit, etc., etc. Mais à aucun moment ces gens du socialisme utopique ne réfléchissent au global, finalement. C'est-à-dire que chacun doit se débrouiller dans son coin pour organiser son petit socialisme tranquillement, mais sans réflexion globale. Quand les réflexions globales apparaissent, elles sont relativement simplistes. C'est-à-dire que le grand danger, c'est l'argent. Le grand danger, c'est l'accumulation. Le grand danger, c'est ce qu'on appelait les agioteurs, c'est-à-dire ceux qui trafiquent sur à la bourse, etc., etc. Et ce qui est aussi dangereux, c'est ce que l'on pourrait appeler l'étranger dans une acception un petit peu globale. C'est le cosmopolite. C'est ce qui n'est pas enraciné dans quelque chose, qui n'est pas lié dans une relation sociale, justement, dans un phalanstère, etc. C'est tous les gens qui sont en dehors, finalement. Et évidemment, on débouche à un moment donné sur l'antisémitisme. Il faut le dire que la plupart des penseurs socialistes utopiques de l'époque sont antisémites et radicalement antisémite. Charles Fourier considère que le juif est un parasite, et on va le voir aussi pour Proudhon, Blanqui aussi, ou en tout cas les gens autour de Blanqui ont des propos extrêmement antisémites, le juif devenant une espèce de symbole, on pourrait dire, de la mauvaise économie. Le juif, c'est celui qui s'occupe d'argent, c'est celui qui ne crée rien. L'argent ne crée pas, ou crée fictivement quelque chose. Ça s'oppose à une vision de l'économie de manière productive. La vraie économie, on pourrait dire, c'est celle qui produit quelque chose pour le besoin des individus. Donc il y a une vision qui est extrêmement antisémite, en dehors des Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens sont les seuls socialistes utopiques qui, eux, considèrent que, enfin, ne parlent pas de cette question du judaïsme et de l'assimilation capitalisme, juif, pour dire les choses relativement simplement. Et pourquoi ? Parce que, eux, précisément, ils ont une vision un petit peu, on pourrait dire, je dirais pas de matérialisme historique, mais enfin, ils ont une vision de l'histoire. C'est-à-dire que pour les Saint-Simoniens, de toute façon, l'industrie va naturellement rendre le monde heureux. Donc, il y a une vision de l'histoire, il y a une vision de la politique. Donc, on n'a pas besoin de se battre, on pourrait dire politiquement, hein, on n'a pas besoin de se battre contre des ennemis, puisque finalement, c'est la loi de l'histoire que de faire en sorte que l'industrie rende les gens heureux, prospères, etc., etc. Au début, ça ne marche pas très très bien, il y a des pauvres, des riches, etc. Mais globalement, pour Saint-Simon et ses Saint-Simoniens, ça, tout ça va finir finalement par se résoudre de manière logique. Alors, regardons un petit peu plus précisément ces personnages, quelques personnages de l'époque. Auguste Blanqui, par exemple, hein, le célèbre Auguste Blanqui, qui est un peu le symbole du socialisme du 19e siècle, hein, qui est né en 1805 et en 1881, et qui meurt en 1881, dit l'enfermé, comme vous le savez, c'est tout sur les plaques de, souvent sur les plaques de rue, c'est marqué, parce qu'il a passé beaucoup de temps, effectivement, en prison. Alors, ce qui est très intéressant dans le socialisme d'Auguste Blanqui, c'est que c'est un socialisme élitaire. C'est-à-dire que le socialisme ne peut se mettre en place que par une espèce de, alors j'exagère un peu, une espèce de viol du peuple. Hein. C'est-à-dire qu'il faut forcer le peuple, quelques activistes vont faire un coup d'État, vont prendre le pouvoir et vont forcer la société à rentrer dans le socialisme. Alors comment exactement, etc. Tout ça est un peu, et très, c'est pas un théoricien, hein, Blanqui, c'est beaucoup plus un activiste, mais c'est une idéologie très insurrectionniste, finalement. Hein. Il a du peuple une notion extrêmement vague. Hein. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Bon, c'est les gens qui sont pas à la tête du pays, finalement. Hein. Ce sont pas les capitalistes, ce sont pas les bourgeois. Tous les gens qui sont pas bourgeois et qui sont pas les alliés des bourgeois, c'est le peuple. Donc c'est la dictature d'un petit nombre. C'est la centralisation. On voit là l'influence du jacobinisme, hein, très fortement sur ce socialisme blanquiste, hein, qui va jouer un rôle très important, hein, notamment même au moment de la Commune de Paris, hein, en 1871. Il y aura beaucoup de blanquistes, hein, parmi les communards. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, on a des blanquistes, hein, dans le mouvement socialiste. C'est même une tendance encore extrêmement forte. Et ils sont contre la démocratie. Hein. Ils sont totalement contre la démocratie. Donc on voit bien déjà qu'on peut être socialiste et antidémocrate. Ils sont contre le parlementarisme parce que c'est une invention des bourgeois pour contraindre le peuple. Donc ils détestent absolument tout ce qui a trait au parlementarisme. Deuxième exemple que je vais donner, c'est un personnage bon, beaucoup moins connu qui s'appelle Alphonse Toussenel, 1803-1885, qui est un disciple de Charles Fourier et qui en 1847 écrit un livre qui s'appelle « Les Juifs, rois de l'époque » et qui est en fait un peu le premier livre qui est un livre antisémite du point de vue économique. Vous savez qu'il y a des tas de formes d'antisémitisme, on a l'occasion d'en reparler. Il y a l'antisémitisme catholique, parce que évidemment il a tué, ils ont tué le Christ. Il y a l'antisémitisme racial, parce que bon, ils sont pas comme nous. Bon, etc., etc. Bref, il y a tout ça. Et puis il y a l'antisémitisme économique, qui consiste à dire quoi? Bah précisément que le capitalisme est une invention des juifs. Alors, il ne déteste pas que les juifs, il déteste aussi les protestants et les anglais, hein, ce Toussenel. Alors, ça fait rire, mais c'est un bouquin qui a eu une influence au 19e siècle que l'on ne peut pas imaginer. Hein. C'est un bouquin extrêmement important qui est lu, évidemment, qui sera lu, évidemment, à l'extrême droite, chez, on verra, les antisémites, Drummond, etc., mais qui sera aussi lu parmi les socialistes parce qu'il a un point de vue socialiste. Pour lui, abattre le capitalisme, c'est quoi? C'est abattre les juifs. Hein. Très peu d'explications là-dessus. Hein. Il donne quelques exemples. Alors, évidemment, c'est les Rothschild hein, qui sont l'exemple. Évidemment, bon, les Rothschild, ils auraient mieux fait de faire autre chose, sans doute, bon, parce que ça, évidemment, leur saga, évidemment, donne du moulin. Enfin, donne des éléments, si vous voulez, etc. Bon, donc c'est un symbole même aujourd'hui. Hein, je crois, c'est encore ce symbole important. Hein, de voilà. Bon, ils sont pas très nombreux à cette époque-là. Les Juifs, hein, ils sont 40 000 en France, hein, donc c'est quand même une toute petite minorité, mais peu importe, la minorité justement réussit, hein, parce qu'elle est soudée, parce qu'elle est organisée, etc., à coloniser, on pourrait dire, toute la société et toute l'économie. Alors pourquoi les Juifs à l'époque? Parce que, en fait, on voit bien la liaison avec les Anglais et les protestants, c'est parce que le capitalisme, c'est quelque chose d'étranger. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'âme de la France, l'ouvrier français, etc., etc. Hein, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, le capitalisme. C'est pas du tout français. Et ça, c'est une idée que l'on va retrouver jusque dans les années 30, que l'on va retrouver chez Pétain, enfin remarquer, mais que l'on va retrouver aussi, ma foi, d'une certaine façon, dans l'anti-américanisme des années 50, 60 et 70 dans la gauche. Hein. Cette idée que finalement le capitalisme c'est américain, hein, que c'est eux qui nous apportent ces méchantes choses, et que ça n'a rien à voir finalement, c'est pas très adapté finalement à notre bonne vieille France, hein, qui a d'autres valeurs que cela. Donc c'est un élément intéressant. Je signale d'ailleurs que la maison d'édition de, alors je sais pas du tout la publicité pour ça, de Alain Soral vient de rééditer ce bouquin de Toussenel. Donc ce qui est un élément quand même qui est intéressant, parce que aujourd'hui, comme vous le savez, Soral enfin se présente à la jonction de la gauche et de la droite quand même, hein. Donc ce qui est un truc, vous voyez, qui est intéressant. Donc j'ai l'ai lu sur dans les bouquins de, enfin dans des archives, etc. Enfin j'ai pas tout lu parce que c'est quand même très très chiant, hein. Non mais c'est vrai que c'est pas un, parce que l'analyse est quand même pas très finaude, hein. C'est-à-dire enfin, c'est tous les thèmes que l'on retrouvera après sur voilà, les Juifs, machin, enfin tout ce qu'on peut lire, droite, sur le rôle des Juifs dans le développement du capitalisme, etc., etc. Voilà. Deuxième personnage. Alors là, bon, fort heureusement, un certain intervenant dans l'université populaire n'est pas là aujourd'hui. C'est Proudhon. Hein. Bon. Vous voyez sans doute à qui je veux faire une allusion, qui est un mec que j'aime beaucoup d'ailleurs, Proudhon. Enfin, faut dire que Proudhon, qui est quand même, je vous le signale quand même aussi avec Blanqui, les deux grands personnages du socialisme français, quand même. Hein. Marx était très très fasciné par Proudhon au début. Hein. Après, il y a eu quelques problèmes entre eux, etc., etc. Mais Proudhon, au début, considérait Proudhon comme un type important dans le socialisme. Bon, donc on peut lui faire confiance, peut-être, à Marx là-dessus. Bon, alors Proudhon, c'est très compliqué parce que si vous voulez, Proudhon, il dit tout et n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que, en fonction des bouquins, etc. Là, je pense que là-dessus, personne dont je parle sera d'accord avec moi d'ailleurs, parce que on trouve de tout, hein, chez Proudhon, hein, on trouve il est à un moment donné il dit du bien du catholicisme, puis après c'est affreux le catholicisme, et puis il dit du mal des nations, puis après dans d'autres bouquins il dit sachement bien les nations, etc., etc. C'est assez compliqué, hein, c'est pas très construit, hein, on pourrait dire la pensée de Proudhon. C'est logique puisque Proudhon c'est une pensée quand même un peu de la vitalité, du spontané, de l'organisation un peu de chacun dans son coin, entre nous, c'est l'alchimie des individus, c'est l'alchimie des âmes, hein. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, où du coup il n'y a pas de système, et donc il revendique effectivement l'antisystème. C'est un type antisystème, hein. On ne peut pas inventer, on ne peut pas créer, on ne peut pas avoir une vision de l'histoire non plus, puisque en fait la vie c'est une continuelle mutation de choses, de sentiments, enfin tout ça est très mélangé, etc., etc. Donc il est cohérent par rapport à lui-même. En même temps, Bon, il développe tout un tas d'éléments qui sont des éléments franchement de droite, on pourrait dire, franchement assimilés même, on pourrait dire, à l'extrême droite. Il y a des propos extrêmement antisémites chez Proudhon, c'est connu, hein, c'est le juif est l'ennemi du genre humain, par le feu ou par l'expulsion, il faut que le juif disparaisse, le juif c'est le capitalisme, c'est une race insolente, obstinée, infernal, le juif c'est le mal absolu, etc., etc. Donc il y a des, il y a une assimilation très claire, hein, chez Proudhon du capitalisme et du juif. Parce que précisément, il y a cette question du capitalisme productif et du capitalisme non productif, hein, qui est une donnée fondamentale sur lesquelles bute et bute peut-être encore aujourd'hui la gauche. Hein, entre parenthèses, on a vu ces discussions, hein, avec le Made in France, mon ennemi c'est la finance, etc., etc. Hein, y a une ambiguïté, etc., etc. Ça, je laisserai ça de côté. Mais on peut remarquer qu'il y a toujours cet élément. Proudhon n'aime pas les étrangers qui viennent en France pour exploiter les gens. Il parle de la pureté du sang à certains moments, de la race française, de la tradition française, du génie français. Il parle de socialisme gaulois. Il défend la propriété. Il est connu sur la propriété, sur le, c'est le vol. Oui, mais en même temps, il dit la propriété sur le vol quand elle excède un certain seuil, etc. Mais il considère que la propriété doit être la base de la société. Chacun doit avoir son petit lopin de terre, sa petite propriété, etc. Bon. Il soutient Napoléon III à un certain moment. Enfin, en tout cas, il a une position quand même plutôt ambiguë. C'est pareil pour la guerre. Il écrit un bouquin qui s'appelle « La guerre et la paix » où, en tout cas dans la première partie, il nous explique que la guerre, c'est pas mal finalement parce que ça impose un certain nombre d'idéaux. Hein, il y a une vision un peu vitaliste de la guerre. Hein. Dans la guerre, on voit les hommes, on voit les forces qui s'opposent, etc. Et c'est pas mal d'ailleurs, entre parenthèses, on verra ça. Effectivement, sur le fascisme, et Mussolini est un admirateur, sur ce plan-là en tout cas, de Proudhon. L'antiparlementarisme de Proudhon est aussi extrêmement fort. Hein. Il faut que les gens se débrouillent tout seuls, etc., etc. Il y a aussi un élément de socialisme éthique très fort, chez Proudhon. Il parle beaucoup de la dignité. Ça doit être la dignité, ça doit être la justice qui doit porter les gens. Mais il n'y a aucune vision de l'histoire, hein, des contradictions sociales, on pourrait dire, du processus historique qui pourrait amener à la révolution, etc. Il est évidemment anticommuniste. Il se dit nationaliste franc-comtois. Alors on me dirait c'est un peu folklorique, etc. Pas tellement à l'époque d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un vrai mouvement, hein, ici en Comtois, enfin dans le Jura aussi, hein, bon, il y a tout un mouvement, etc. En même temps, il trouve que la France doit avoir un statut particulier dans le monde, hein, donc il est nationaliste au sens où il pense que la France a une mission, hein, très importante, un rôle extrêmement important. Il est contre le vieux despotisme germanique pour la tradition française. Il justifie le colonialisme. Il dit que c'est bien parce que c'est bon pour les chômeurs, parce que les chômeurs français, pour les ouvriers français, parce que ça va être un débouché, hein, pour l'industrie française. Donc c'est pas mal la colonisation. Et puis alors on connaît évidemment les diatribes sur les femmes, hein, les femmes c'est affreux, les femmes il faut qu'elles obéissent aux hommes, il faut pas qu'elles soient éduquées, c'est pas bien, etc., etc. Et puis alors il défend les nationalités contre la nation. C'est un truc qui est assez intéressant là, parce que précisément il nous explique que finalement la nation c'est pas bien, la nation, parce que ça contraint les nationalités locales. Vous voyez, il y a ce côté terroir, il faut protéger les terroirs, et que finalement c'est pas la nation en tant que telle qui est le plus important, mais ce sont les terroirs locaux, etc. Bon. Vous voyez donc une ambiguïté qui est tout de même très très forte. Alors Si on continue cette histoire un peu du socialisme, on peut ajouter qu'il y a deux moments historiques très particuliers en France au XIXe siècle qui peuvent aussi contribuer à faire comprendre ce qui se passe dans le socialisme français à l'époque et son à la fois son anti-parlementarisme, son antidémocratie finalement, hein, ils sont antidémocrates finalement, ces socialistes d'une certaine façon, en tout cas antidémocrates au sens où mettre en place des élections, des institutions démocratiques, etc. Hein, où c'est finalement la majorité qui décide, etc. etc. Et cette méfiance de l'étranger, cette méfiance un peu de ce qui peut se passer autour, etc. Et cette coupure finalement avec la République d'une certaine façon. Avec les institutions de la République qui sont aussi une donnée importante l'extrême droite. C'est d'une part la révolution de 1848. La révolution de 1848, c'est un choc terrible pour les socialistes français. Hein. On peut dire que les socialistes français jouent un rôle très important dans la révolution de 1848, qu'ils arrivent à imposer au début un certain nombre d'institutions socialistes, etc., qui vont dans le sens donc de l'installation d'un régime socialiste en France. Et ensuite, il y a une espèce de coup d'État des républicains, hein, non socialistes, on pourrait dire, qui réprime le mouvement socialiste. Déjà, les gens partent en exil dès 1848. Bon, évidemment, on peut dire que l'élection de Napoléon III va évidemment être l'apogée de l'évolution, mais en même temps, évidemment, la répression républicaine a d'une certaine façon préparé la victoire de Napoléon III, puisque les républicains vont quand même appuyer les forces, on peut dire, vont s'allier aux forces conservatrices hein, dans les années 1849-1850, et donc finalement Napoléon n'aura plus qu'à récupérer ce pouvoir qui d'une certaine façon lui tend les bras. Donc il y a une rupture à ce moment-là. Les républicains, les institutions républicaines sont perçues par les socialistes français hein, comme mauvais, comme une institution bourgeoise, anti-peuple, hein, qu'il faut remettre en cause. Le deuxième moment, c'est évidemment de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'est un peu, d'une certaine façon, la ressucée de ce qui s'est passé en 1848. Hein. Il y a les républicains et les socialistes qui prennent le pouvoir, hein, qui écartent Louis-Napoléon, qui proclame la République, mais en même temps les socialistes veulent aller plus loin, ils veulent des réformes sociales, etc., etc. Et on connaît bien la République qui massacre la Commune en 1871. Et là, les gens partent, hein, ils sont exilés, les gens sont expulsés de France, ils doivent partir, etc., etc. C'est la fin du mouvement socialiste à ce moment-là. Faudra attendre 1876, je crois, que de nouveau les socialistes, les gens qui ont participé à la Commune de Paris, puissent revenir sur le territoire français. Donc il y a vraiment dans le mouvement socialiste l'impression que cette République, finalement, elle est là pour empêcher la révolution socialiste et non pas pour faciliter d'une certaine façon la révolution socialiste et satisfaire les revendications du mouvement ouvrier. Il faut dire, mais je vais revenir sur cette question-là, que le gros problème du mouvement socialiste en France, c'est qu'il est extrêmement minoritaire. Tout simplement pourquoi ? Bah parce que les ouvriers sont extrêmement minoritaires. Hein. C'est une donnée sociologique de base. Et pourquoi les socialistes sont anti-élections, sont anti-parlementaristes, sont anti-démocrates, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est parce qu'ils n'ont absolument aucune chance de conquérir un quelconque pouvoir par les urnes. Ils sont une hiérarchie minoritaire, parce que la grosse partie de la population est une population paysanne qui vote très à droite en général, en dehors de quelques endroits particuliers, et surtout qui est sous la coupe des notables de province. faire. Et donc, il n'y a aucune chance que les lois sociales puissent être avancées. Je vous signale d'ailleurs que c'est aussi la question des républicains. Parce que les républicains, pendant tout le règne de Napoléon III, se posent la question de comment faire, à travers les élections, pour imposer la République. Parce que en 1848, ça n'a pas du tout marché, puisqu'ils ont élu sans difficulté Napoléon III, qu'à chaque référendum, Napoléon III a reçu il trafiquait un petit peu, mais pas tellement. Les référendums étaient plutôt, justes, entre guillemets. Bon, évidemment, il y avait des pressions des notables, comme je vous disais tout à l'heure, les curés, notables, etc., qui poussaient les gens, évidemment, à voter pour Napoléon. Mais, bon, en même temps, on peut dire que c'est le jeu démocratique aussi, l'influence des gens sur les élections, quelque chose qui fait partie du jeu démocratique. Bon, donc on voit bien que les républicains eux-mêmes, pendant à peu près 20 ans, vont se poser la question: qu'est-ce qu'on fait du peuple? Il y a un bouquin qui est très intéressant qui s'appelle Chloé Gaborio, qui sur ce thème-là, qui est une chose très peu connue aussi, où il y a des tas de républicains qui disent: mais c'est pas possible, les élections, nous on n'en veut pas. Si on veut proclamer la République, il ne faut pas qu'il y ait des élections. Oui, parce qu'autrement on n'aura jamais la République. Les gens ils vont jusque-là. Et d'autres gens ils disent: non, mais il faut éduquer le peuple. C'est en éduquant le peuple que l'on va réussir à le convaincre, etc. C'est-à-dire, finalement, ils essaient de faire comme les notables. Ils essayent de forcer finalement les paysans à voter pour eux d'une certaine façon. Vous voyez, il y a un truc. Donc, ça pose des questions républicaines aussi, cette question. Le fait que sociologiquement, la société française est une société qui est complètement paysanne encore au XIXe siècle et pour longtemps. Alors. Autre moment très important toujours dans cette histoire du socialisme, c'est la question du boulangisme. Alors c'est, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'aventure du général Boulanger, c'est un personnage assez intéressant, qui est né en 1837, qui est mort en 1891, et qui pendant 3 ans, 86-89, va être au bord de prendre le pouvoir. C'est une espèce de, je dirais, de nouveau Napoléon, mais peut prendre le pouvoir quasiment démocratique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'engouement pour Boulanger, les candidats boulangistes sont élus extrêmement facilement, lui-même est élu à un moment donné dans 7 arrondissements différents, parce qu'on peut être élu à l'époque dans plusieurs arrondissements, c'est un espèce de raz-de-marée et les républicains ont la trouille. Les républicains de l'époque, les Ferry, etc., Gambetta, ils ont la trouille parce que ils se disent zut, alors on a réussi à faire la République et maintenant il y a un guignol là qui va nous prendre le pouvoir. Alors finalement ça se fera pas, bon j'ai pas le temps de développer les choses pour des raisons diverses et variées, mais ce qui est très important dans ce mouvement boulangiste, c'est que c'est précisément un moment où il y a une espèce d'alliance entre les socialistes et ce qu'on pourrait appeler la droite extrême ou l'extrême droite, de manière très forte. Dans ce mouvement boulangiste, il y a bien évidemment des monarchistes, des bonapartistes, des gens qui sont contre le système parlementaire, mais il y a aussi beaucoup de gens de gauche et d'extrême gauche, on pourrait dire aujourd'hui. Il y a des gens, bon, qui sont pas très connus maintenant, mais qui étaient à l'époque très connus, des gens comme Naquet, Lézan, Laguerre, qui sont des gens souvent d'ailleurs des blanquistes, ou des gens liés au socialisme utopique, etc., qui eux vont devenir boulangistes parce que dans le programme de Boulanger, il y a aussi des réformes sociales. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de socialisme qui est beaucoup plus avancé que les projets des républicains de l'époque, qui ne hésitaient encore beaucoup pour prendre des décisions dans le domaine social. Donc, il y a un mouvement qui est extrêmement fort, qui va lire donc à la fois ce nationalisme, parce qu'ils sont évidemment pour la revanche, Hein, on reproche beaucoup aux républicains de ne pas être assez pour l'armée, de ne pas défendre l'armée assez, de ne pas être anti-germain, etc. Hein. Jules Ferry, dont on parlait tout à l'heure, va être appelé, je ne me souviens plus le terme, mais enfin, un agent de Bismarck, hein, parce que justement, ces gens-là ne sont pas assez républicains. Bon, et d'ailleurs, quand, comment il s'appelle, je viens de le citer, Clémenceau va être aussi très très proche des boulangistes. Hein. Il y a un rapport très étroit qui existe à l'époque. Donc on a là, au moment du boulangisme, cette alliance de nouveau entre des thématiques extrêmement radicales sur le plan social, hein, anti-bourgeois, hein, anti-capitalistes. Hein, on veut démanteler aussi les grandes usines, etc., etc. Bon, il y a un truc assez révolutionnaire, on pourrait dire, et le nationalisme et des thèmes, disons, plus d'extrême droite. Mais ici, il faut dire aussi que toutes les années 1890 sont une flambée antisémite extrêmement violente, nationaliste et antisémite extrêmement violente. En 1882, c'est la création de la Ligue des Patriotes de Déroulède. En 1889, un certain Marquis de Morès crée la Ligue antisémitique, qui rencontre un énorme succès. Vous avez aussi la création des syndicats jaunes en 1899, hein, c'est-à-dire des syndicats qui sont anti-marxiste, anti-socialiste, on pourrait dire, enfin anti-parti socialiste, on pourrait dire, mais en même temps qui revendiquent des réformes sociales extrêmement fortes, mais pour les ouvriers français, hein, pour les ouvriers français, qui auront jusqu'à 100 000 membres, hein, au tout début du siècle, et avec comme thème travail, famille, patrie. Hein, on voit des thèmes, hein, qui sont, on n'est pas très loin de Proudhon, hein, d'une certaine façon, comme j'ai dit tout à l'heure, le travail, la famille, la patrie, hein, on est pas très très loin. Et puis, alors, cet antisémitisme, hein, aussi, pourrait dire populaire, puisque ces gens-là ont des électeurs, ils ont des membres, hein, des organisations ont des membres. Il y a l'Algérie, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui s'est passé dans les années 1884 à 1902, une espèce de fièvre anti-juive terrible en Algérie. En 1898, sur 6 députés algériens qui viennent d'Algérie, il y en a 4 qui sont anti-juifs. Hein, c'est-à-dire leur thématique d'élection, c'est anti-juif. Hein, le maire d'Alger, le maire d'Oran est antisémite, hein, très très clairement, très 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 fortement. Et évidemment, le mouvement, on pourrait dire socialiste, n'est pas du tout en dehors de ce mouvement général de nationalisme et d'antisémitisme. Même Louise Michel, la célèbre Louise Michel, va assister à un meeting du marquis de Morès, de la Ligue antisémitique, parce que Ligue antisémitique, pour la gauche, veut dire quoi ? Ligue anticapitaliste, ou en tout cas les mauvais capitalistes, hein, qui donc font de l'agiotage, trafiquent, la spéculation, etc. Il faut dire qu'à l'époque, il y a des scandales financiers et bancaires absolument terribles, avec des tas de gens chez les républicains, notamment le gendre de Jules Grévy, hein, qui est dans un scandale, etc. Il y a le scandale de Panama, enfin il y a tous ces trucs-là. C'est une époque où la classe politique républicaine, on pourrait dire modérée, est absolument déconsidérée parmi le peuple. Hein, je ne veux pas faire de parallèle historique non plus, hein, avec ce que l'on entend aujourd'hui, mais il n'y a pas de quoi admirer, je dirais, le système politique démocratique de l'époque. Il y a des vrais problèmes, si vous voulez, sur ce plan-là. Donc, toute cette critique, vous voyez, au nom de la justice sociale, d'une certaine éthique, etc., qui est propre au socialisme français, rentre tout à fait dans ce univers. Et dans la Ligue des Patriotes, dans la Ligue antisémitique, il y a des gens de gauche, il y a des ouvriers, etc., etc. Et parmi aussi les gens qui vont élire des députés antisémites, il y aura beaucoup de gens de gauche, des ouvriers, etc., etc. Dernier élément qui sont aussi intéressants et qui de l'époque, entre disons les années 1870 et la Première Guerre mondiale, ça continuera ensuite d'ailleurs, un petit peu moins fortement, mais ça continuera, il y a une idéologie anti-étrangère qui se développe dans le mouvement ouvrier français extrêmement fort. Là on parle plus des juifs, on parle des ouvriers étrangers, hein, qui viennent travailler en France, notamment dans les mines par exemple, ça, là, il y a des travaux qui sont extrêmement bien faits là-dessus, mais ailleurs, etc. Et il y a des mouvements extrêmement violents. Chaque fois qu'il y a une baisse du prix du travail, il y a des mouvements anti-étrangers. Alors quand je parle des mouvements anti-étrangers, c'est des étrangers quand même pas très étrangers, hein, c'est les Belges. Hein, il y a des manifestations anti-belges, hein, il y a des massacres de Belges. Hein, on va leur casser la gueule et on en tue deux ou trois. Hein. On va renvoyer des trains entiers de travailleurs belges à ce moment-là, à certains moments, à la Chambre des députés, les leaders socialistes, les leaders radicaux aussi, hein, vont protester par tous, parce que là il y a une espèce de clivage, mais un certain nombre de nés vont demander d'une réglementation pour empêcher les travailleurs étrangers de rentrer sur le territoire chinois. Décidément, vous voyez, j'y échappe pas, pour rentrer sur le territoire français. Hein. Donc on voit bien que c'est ça. Et puis, tout ça va concerner aussi les Polonais, vous voyez. Alors on n'est pas, vous voyez, avec des musulmans, etc., avec une autre culture, avec une autre langue, avec tout ce que vous voulez, on est avec des Belges et avec des Polonais, vous voyez. Bon, il n'y a rien quand même de plus blanc, il n'y a rien de plus blond, il n'y a rien de plus catholique, hein, que des Belges et des Polonais. Bon, il y a quelques protestants chez les Belges, mais enfin quand même pas beaucoup. Bon, pas beaucoup, pas pratiquement pas chez les Polonais. Bon, c'est pareil, il y a des mouvements contre les Polonais, hein, et on met en place d'ailleurs des réglementations pour empêcher l'assimilation des Polonais en France. On interdit aux enfants polonais d'aller à l'école dans certains endroits, hein, en disant il vaut mieux qu'ils continuent à parler polonais parce que par après de toute façon ils vont partir, hein, et ils vont rentrer chez eux, donc nous on n'en veut pas, on veut protéger, hein, les Français. L'Église catholique d'ailleurs joue aussi un rôle là-dedans, hein. Il y a des engueulades entre les prêtres polonais et les prêtres français, hein, là-dessus, hein, pour savoir qui va avoir le contrôle de ces là aussi. Des trucs assez violents. Déjà à l'époque, d'ailleurs, on commence à essayer de remplacer les Polonais et les Belges qui sont des étrangers par des Algériens, notamment des Kabyles, qui sont pas vraiment des Français, mais qui sont pas vraiment des étrangers, hein. Donc vous voyez, dans l'idée que, vous voyez, le travailleur étranger quand même, et là je vous parle pas encore une fois, hein, de groupements d'extrême droite, je vous parle, parce que le patronat est plutôt, lui, à cette époque-là, pour l'arrivée des Polonais, des Belges et de tout ce que vous voulez pour évidemment mieux les exploiter. Donc c'est pas tellement une revendication de droite à l'époque, c'est une revendication plutôt de gauche. Et puis tout ça d'une certaine façon va exploser à l'époque du massacre d'Aigues-Mortes. Je sais pas si vous connaissez le massacre d'Aigues-Mortes du 16-17 août 1893, où, alors on saura jamais le nombre, mais où un certain nombre d'Italiens vont être massacrés par les travailleurs français du CRU. Bon. Officiellement, une dizaine de morts. Du côté italien, eux, ils disent 150 morts. Donc vous voyez, c'est quand même, l'écart est quand même assez important. On ne saura jamais, en fait, exactement comme eux. Hein, mais c'est des véritables émeutes anti-italiennes, hein, autour de la question du prix du travail, de la nationalité, etc., etc. Donc, Vous voyez que c'est un élément qui est très fort. Là, on ne parle pas des élites socialistes, on parle des ouvriers eux-mêmes, hein, dont certains, là, dont je parle, et sont socialistes. Donc, cette question du national dans la classe ouvrière joue un rôle, évidemment, aussi extrêmement important. Alors, avant de continuer le tour de... continuer l'histoire, pourquoi, je dirais, pourquoi on a cette espèce de... d'articulation en France particulière entre les questions de nation et de socialisme. Il faut regarder quand même, quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier en Europe, je parle des grands pays, je parle de l'Autriche, je parle évidemment de l'Allemagne, je parle aussi de l'Angleterre. On voit qu'on n'a pas cette... On a des choses qui sont quand même tout à fait différentes. Alors, pourquoi cette situation? Premier élément, j'en ai déjà parlé, mais je reviens très vite là-dessus. Il faut savoir que la classe ouvrière française est extrêmement minoritaire en France. C'est une population qui représente une proportion très faible de la population. Et pourquoi? Parce que la révolution industrielle française est extrêmement lente. C'est extrêmement lent. Il faut se souvenir qu'en 1946, 36% encore des actifs étaient des paysans. C'est l'année 1936 qui fait que l'on bascule dans une société urbaine, c'est-à-dire où on a 50% de la population qui vit dans les villes, 50% qui vit dans les campagnes. 1936, c'est-à-dire que dans tout le 19e siècle, la population rurale est encore extrêmement importante. Et la population ouvrière extrêmement limitée. Alors pourquoi elle est extrêmement limitée? Parce que la révolution industrielle, le développement du capitalisme français est assez lent, et il va prendre un cours assez particulier, c'est-à-dire que on va avoir, contrairement à l'image que l'on a d'Épinal un peu, des grandes usines, etc., tout ça c'est extrêmement minoritaire au 19e siècle. Les grandes usines, ça sera plutôt dans les années 30 que ça va commencer à se développer, et ensuite dans les années 40 et 50 en France. Mais tout le 19e siècle, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est plutôt un capitalisme qui s'appuie sur l'industrialisation des campagnes. C'est-à-dire que les usines, c'est des petites usines dans les campagnes, bon, par exemple, Oyonnax, le Jura, etc., les vallées des Alpes, etc. On voit ça aussi pas très loin d'ici, Rive de Gier, tout ça. Ça, c'est qui, là? C'est des paysans qui, à la limite, quittent leur terre pendant quelques jours, vont aller travailler et repartent, en tout cas au début, avant que les choses se développent, etc. Donc c'est finalement une industrie qui ne suscite pas véritablement le développement d'une espèce de conscience ouvrière un petit peu globale. C'est une conscience qui reste une conscience à la fois paysanne et d'artisan. Parce que précisément, les grandes usines, c'est extrêmement faible. Bon, il y a Schneider, il y a les mines, etc., etc., mais c'est encore très marginal. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour voir. Et encore une fois, ça restera relativement limité. Donc, on a, si vous voulez, les ouvriers, c'est quoi? C'est un espèce de lumpenprolétariat, c'est-à-dire vraiment des gens très pauvres, exploités dans des petits trucs, dans les mines, etc. Bon, ça, c'est... etc. Et une classe, finalement, d'artisans, paysans, encore liés, la paysannerie, etc., de gens qui savent faire des choses encore, etc., qui sont finalement relativement protégés, on pourrait dire, parce que ils n'ont pas complètement coupé avec la campagne. Les maçons de la Creuse vont travailler à la morte saison, ils reviennent ensuite travailler au champ, il n'y a pas une espèce de coupure radicale, on est ouvrier paysan, d'une certaine façon, relativement protégé, avec une espèce d'idéologie du travail productif. C'est-à-dire que finalement, ce qui est important, c'est le travail est une valeur. On pourrait dire. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement fort. On aime le travail bien fait. Il y a encore cette idéologie qui est extrêmement, extrêmement importante. Et donc, très peu d'exode rural. Hein. Il faut se souvenir que la grande époque de l'exode rural en France, c'est quoi? C'est les années 50 et 60. Hein, quand on regarde les statistiques, 1950, 1960, je vous parle. Hein, je ne vous parle pas du 19e siècle. Il y en a, évidemment, bien sûr. Mais quand on regarde les chiffres, ça reste quand même relativement marginal. Et ça reste, comment dire, progressif. C'est pas du tout les paysans anglais qui en une génération hein, deviennent ouvriers urbains et perdent complètement tout lien, on pourrait dire, avec leur lieu d'origine. Donc ce qui s'installe donc, c'est un espèce de socialisme, je dirais, de producteurs, de petits producteurs qui ne rêvent finalement que d'une chose, c'est de pouvoir redevenir des artisans maîtres de leurs outils, hein, dans leur atelier, hein, dans leur petite usine, hein, et qui gardent un caractère très national, très lié au terroir, très lié au lieu d'où ils viennent, hein, et auquel ils sont évidemment extrêmement attachés. Donc, le socialisme français a une connotation très nationale, finalement. Hein. C'est l'ouvrier français, et avec très peu de rapport avec les idées internationalistes. Et on voit ça très bien dans le mouvement socialiste français de la fin du 19e siècle, où il y a une méconnaissance absolument quasi totale du marxisme. Ça peut être très bizarre, hein. On peut s'imaginer que c'est très bizarre parce que déjà à l'époque-là, des gens se réclamaient du marxiste. Mais il faut savoir que Marx lui-même était absolument atterré de l'inculture des chefs du mouvement socialiste français sur ses propres œuvres. Hein. À un moment donné, il y a une phrase assez célèbre, il dit « si le marxisme, c'est le marxisme français, je ne suis pas du tout marxiste hein. ». Ils n'ont rien compris, ces Français. Hein. Il faudra attendre 1885 pour que le manifeste du Parti communiste soit traduit en français. C'est-à-dire il y a une méconnaissance absolument alliée. Et on a des tas de textes de socialistes allemands, du Parti social-démocrate allemand, qui se moquent de leurs camarades socialistes français, de leur inculture. Ils connaissent absolument rien. Ils connaissent pas le matérialisme historique, ils connaissent pas l'analyse du capitalisme, ils connaissent absolument rien. Ces braves Français. Et non seulement vous avez une partie donc du mouvement ouvrier français qui se réclame du marxisme, mais d'un vague marxisme pas très clair, mais surtout il y a toute une partie du socialisme, du mouvement socialiste qui est anti-marxiste. Hein. On voit apparaître dans les années 1890 ce que l'on appelle les socialistes révolutionnaires, hein, qui eux sont tout à fait anti-marxistes et reprennent pour l'essentiel en fait les thèmes du blanquisme, c'est-à-dire le coup d'État, la prise de pouvoir, l'agitation, l'insurrection, etc., etc. Hein, des gens comme Gustave Hervé, par exemple, ou des gens comme Lagardelle, ou des gens comme Grueffel, etc., etc., sont des gens qui sont dans cette idée, hein, socialiste révolutionnaire, où c'est pas du tout l'objectif de créer un grand parti prolétaire, etc., et puis de conquérir le pouvoir et d'instituer une espèce de un socialisme collectiviste, etc., etc. C'est pas du tout ça. Si on prend le pouvoir, et on verra bien ce qu'on va faire ensuite, hein, on va créer une dictature, et puis voilà, ça sort pas pour l'essentiel de là. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer dans le socialisme français, c'est que au moment de, à peu près à la même époque de l'affaire Dreyfus d'ailleurs, qui joue un rôle relativement important à ce moment-là, il y a une scission très nette qui se fait, hein, donc dans les années 1894-1906, on pourrait dire, dans les mouvements ouvriers. D'un côté, vous avez les socialistes révolutionnaires dont je viens de vous parler. Les socialistes révolutionnaires sont très majoritaires, notamment dans les syndicats. Hein, la CGT de l'époque est dominée par cette idée. Et d'ailleurs, en 1906, sera signée la célèbre charte d'Amiens, qui d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui encore de centrales syndicales se réfèrent hein, à cette charte d'Amiens. Que dit la charte d'Amiens? Elle dit deux choses. Elle dit d'abord le combat socialiste, on pourrait dire, n'est pas un combat politique, c'est un combat syndicaliste. C'est les syndicalistes, par le combat syndical, qui doivent prendre le pouvoir. Mais nous n'aurons jamais plus de rapport avec des partis politiques. Et le syndicat pourra s'imposer, notamment hein, par un élément fondamental qui est la grève générale. Hein, la grève générale, c'est l'outil hein, fondamental des syndicats vers lesquels on doit aller. Deuxième élément, tant qu'il n'y a pas de grève générale, il faut bien faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lutter pour l'amélioration des conditions de travail, des salaires, etc. Parfois violemment, d'ailleurs, par des grèves, par des mouvements très très durs, etc., etc. Donc, et deuxième élément. Donc ça, c'est un élément un peu radical. Hein. Il refuse évidemment toute participation au gouvernement. Hein. En 1899, il y a un socialiste qui rentre au gouvernement, un Mitterrand. Là, ça va être un gros scandale. Hein. Deuxième élément, bah, c'est Jaurès. C'est ensuite, à partir de 1905, la SFIO, donc le Parti Socialiste, etc., qui lui, au contraire, est sur des positions, on pourrait dire, à la fois internationalistes, hein, mais pas du tout sur les questions syndicats français défendant les intérêts de l'ouvrier français, hein, mais il garde une idée internationaliste, hein, ça peut paraître paradoxal, puisque en même temps c'est un modéré. Pour lui, il est possible, par les élections, de prendre le pouvoir, d'assurer le socialisme, etc., etc. Donc c'est un élément qui est évidemment tout à fait différent. Et là, il y a une vraie lutte entre les deux et qui est en rapport avec effectivement l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, au début, ce qu'il faut savoir, c'est que les socialistes sont pas très chauds pour défendre Dreyfus. Hein. On a l'impression comme ça que c'est de gauche, etc. Non, c'est plutôt la gauche justement jaurésienne, et même la gauche jaurésienne va mettre du temps à défendre Dreyfus. Au départ, Jaurès n'est pas très chaud. Hein, tout ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de remarquer, je crois que c'est en 1896, il va en Algérie, Jaurès, et il a des propos très ambigus sur l'antisémitisme, par exemple. Hein. C'est pas très très clair. Hein. C'est pas, il va pas dire bah, les juifs, c'est ce truc, mais enfin, il ne va pas non plus dire messieurs les antisémites, vous racontez n'importe quoi, ça n'a rien à voir, etc., etc. Il est relativement, etc. Et ça bascule ensuite à partir de 1898, où là, il y a un vrai basculement, disons, d'une partie du Parti Socialiste, etc., de la gauche, on pourrait dire, de l'époque, qui va devenir. Mais toute une partie de la gauche et du mouvement ouvrier ne va pas être Dreyfusard. Une toute petite partie va être anti-Dreyfusard, hein, notamment un des gens qui sont extrême-gauche, extrême-gauche, extrême-gauche. Hein, mais la plupart, enfin une partie importante notamment du mouvement syndical dont je parlais tout à l'heure, le socialisme révolutionnaire, vont dire, ça c'est la question de la bourgeoisie, nous on s'en fout. Hein, ils ont qu'à se taper dessus entre eux. Nous, on n'est ni anti-Dreyfusard, ni Dreyfusard, on s'occupe pas de tout ça. Alors, donc une attitude un petit peu comme ça, un petit peu ambiguë. Bon, pour finir, cette histoire d'ailleurs de l'affaire Dreyfus, ce qui est intéressant de remarquer à ce moment-là, c'est que après l'affaire Dreyfus, voilà, tout à fait à la fin de l'affaire Dreyfus, il y a une très grande déception dans le mouvement ouvrier vis-à-vis du gouvernement qui est censé être un gouvernement de gauche, hein, même parfois avec participation d'un certain nombre de socialistes ou en tout cas de radicaux socialistes, parce que finalement les avancées sociales sont relativement limitées. Et beaucoup de gens à gauche disent finalement on s'est fait avoir dans ce truc-là, parce que on a soutenu une partie du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste a soutenu le gouvernement, disons, et a accepté le compromis avec la droite autour de la défense de Dreyfus. Une partie s'en est pas occupée, mais n'a rien fait pour soutenir les anti-Dreyfusards, etc. Et au bout du compte, finalement, le gouvernement a réussi cette espèce de synthèse de la gauche modérée et de la droite modérée, hein, qui va devenir cette république du début du XXe siècle, qui va être normalement un gouvernement qui sera plutôt avancé, progressiste, etc. Mais les ouvriers ne voient pas de différence. En plus, le début du XIXe siècle est est un moment de crise économique assez importante. Il y a pas mal de chômage, il y a pas mal de problèmes, etc., etc. Et dans les années 1905-1909, il y a des mouvements ouvriers extrêmement violents, extrêmement forts, réprimés de manière extrêmement violente par un personnage qui a commencé sa vie à l'extrême gauche et qui la finira je ne sais pas où, qui est Clémenceau. Clémenceau qui est un espèce de symbole un peu de la gauche, on pourrait dire radical d'une certaine façon, hein, faut s'en souvenir, hein, nous on a le Clémenceau, un nationaliste et victoire, etc., mais il a commencé à l'extrême gauche et jusque dans les années début du XXe siècle il est classé très très à gauche. Mais Clémenceau fait quelques réformettes, on peut dire sociales, mais surtout en même temps réprime le mouvement des ouvriers. Il y a des ouvriers, pratiquement chaque mouvement ouvrier, chaque mouvement, il y a des ouvriers qui sont tués. Hein. On envoie l'armée, hein, et on tue des enfants, on tue enfin, c'est extrêmement violent. Les années 1905-1909, c'est vraiment une année presque insurrectionnelle, on pourrait dire, et le mouvement anarcho-syndicaliste et le mouvement socialiste révolutionnaire est extrêmement important, évidemment, dans ce mouvement-là. Et là, on voit de nouveau ressurgir des thèmes extrêmement antiparlementaires, extrêmement, disons, antisémites, extrêmement anti-étrangers, extrêmement, des thèmes, on pourrait dire, d'extrême droite, et de nouveau, une espèce d'alliance qui commence à se former, qui se terminera en 1914, parce que finalement tout le monde deviendra en 1914 un peu nationaliste et un peu socialiste, d'une certaine façon, parce qu'il y aura évidemment quasiment plus d'opposants à les guerres, donc tout le monde sera là pour défendre le territoire national, etc., donc tout ça va disparaître, mais jusqu'en 1914, on voit pas mal de liens assez forts entre la droite nationaliste, on pourrait dire, anti-parlementaire, et aussi le mouvement ouvrier, ou en tout cas une partie relativement importante du mouvement ouvrier, notamment ces socialistes révolutionnaires. Et le symbole, d'une certaine façon, de ce rapprochement, qui encore une fois ne va pas durer très très longtemps, c'est la création du cercle Proudhon. Alors c'est quelque chose d'intéressant, le cercle Proudhon, parce que je n'ai pas le temps de développer là, mais c'est précisément un lieu de discussion entre intellectuels d'extrême gauche et intellectuels maurrassiens, donc d'extrême droite, où il y a là une espèce de conjonction. Et alors on prend Proudhon parce que l'extrême droite adore Proudhon, évidemment, hein, on comprend pourquoi. L'extrême gauche aussi adore Proudhon, bon. Et il y a une espèce de conjonction. Alors, ça ne durera pas très très longtemps, ça va durer 3-4 ans, parce qu'après évidemment il y a la guerre de 14. Mais c'est intéressant parce que ces intellectuels qui, par exemple, bon, un personnage important, pas le temps d'en discuter, qui s'appelle Georges Sorel, hein, qui est un des types qui connaît le mieux le marxisme dans les années 1890. C'est intéressant parce que c'est sans doute le seul socialiste qui connaisse bien le marxisme en France, hein, et qui va peu à peu aller sur des thèmes nationalistes, des thèmes précisément de la défense de l'ouvrier, de l'anticapitalisme, etc., etc., et qui va rejoindre donc les maurrassiens qui, eux, finalement, vont faire le chemin inverse, c'est-à-dire que disant, bon, ce qui est important, c'est la nation. Pour faire une nation française puissante, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut régler la question sociale. C'est-à-dire que le problème de la nation française, c'est que on a toute une partie du pays qui est exclue de la nation, c'est la classe ouvrière, à cause de cette espèce de capitalisme sans foi, sans morale, sans loi, qui s'est installé chez nous, avec cette espèce de bourgeois qui exploite les ouvriers, etc., etc., ben on ne peut pas avoir une nation. Et donc, il faut, pour avoir une vraie nation, il faut supprimer la lutte des classes. Et comment supprimer la lutte des classes ? Ben c'est de donner autant de pouvoir et autant de statut social aux ouvriers qu'aux autres catégories sociales dans la société française. À cette condition-là, nous aurons un pays uni, hein, nous pourrons reconquérir l'Alsace et la Lorraine, hein, et il y a dans cette idée-là, etc. Donc, et autour de l'idée que, évidemment, le capitalisme, enfin, intéressant, c'est le capitalisme productif. Donc, on va retrouver, évidemment, dans l'extrême droite maurrassienne, tous les thèmes anti-juives, anti-spéculation, anti-banque, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette espèce de synthèse du cercle Proudhon est intéressante parce qu'on a d'un côté des maurrassiens qui vont découvrir la question sociale en disant, notre problème, c'est la lutte des classes. Et donc, il faut régler cette question de la lutte des classes. Et les bourgeois sont incapables, puisque précisément, pour les bourgeois, ce qui est important, c'est qu'il y ait une coupure entre le prolétariat entre le capital et le travail, pour qu'on puisse, etc. Donc, supprimons d'une certaine façon, hein, capital-travail, ce qui donnera plus tard les questions de corporation, c'est-à-dire qu'une usine, ça doit être géré à la fois par des ouvriers et par des patrons. Hein. Il faut casser cette opposition capital-travail. Du côté de l'extrême gauche, on voit qu'on ne peut pas conquérir le pouvoir parce qu'on est trop minoritaire, que toute une partie du mouvement socialiste a dorénavant accepté, on pourrait dire, le compromis historique avec la bourgeoisie. Hein. Il parle des Jaurétiens, il parle du Parti Socialiste, enfin de la SFIO, etc., etc., hein. Que donc on ne pourra pas prendre de pouvoir de toute façon comme ça parce qu'on est trop peu nombreux et que toute une partie finalement de la classe ouvrière, toute une partie du mouvement socialiste a trahi la cause des ouvriers. Comment on pourra installer le socialisme en France ? En faisant un socialisme national, c'est-à-dire un socialisme sous l'égide d'un État, hein, qui va supprimer cette rupture entre le capitalisme, entre le capital et le travail. Donc on voit bien, vous voyez, cette espèce de rapprochement, hein, relativement fort, hein, qui va donner ses fruits, on en reparlera la prochaine fois, on pourrait dire avec Mussolini, qui est un exemple de réussite finalement de cet amalgame, hein, entre ces deux pensées d'une certaine façon, qui marchera un peu aussi en Allemagne, bien que le cas est un peu particulier, mais aussi on a cette idée que il faut réconcilier la classe ouvrière avec la nation. Avec l'État, hein. Et en France, on pourrait dire, heureusement, peut-être, je ne sais pas, mais ça marchera jamais complètement. Hein. Là, j'ai pas le temps de développer, j'avais préparé des tas de choses là-dessus, mais il y a la création au début des années 20 de ce qu'on appelle les faisceaux, hein, qui reprennent un peu les fascis autour d'un personnage très intéressant qui s'appelle Georges Valois, qui va commencer à l'extrême droite et qui va finir à la gauche. Ça, c'est un cas aussi intéressant. Hein. Il va être fasciste dans les années 20, il va finir dans les années 30 plutôt à gauche, donc et plutôt antifasciste, etc. Donc vous voyez bien que tout ça circule d'une façon un peu compliquée. Bon, il y aura la création de quelques partis fascistes, mais ça marchera jamais tellement en France, hein, même sous l'occupation, avec des gens comme Déa et Doriot. Je vous ferai remarquer que Déa a commencé au Parti Radical Socialiste, a été associé député socialiste, etc. On retrouvera aussi Doriot, communiste, qui deviendra donc patron du Parti Populaire français. On aura un exemple encore plus intéressant qui s'appelle Henri Demane, qui est le chef du Parti Ouvrier Belge. et qui va avoir des positions de plus en plus proches du fascisme, c'est-à-dire une espèce de socialisme national, anti-lutte des classes, hein, où il faut que l'ouvrier se réconcilie avec le capitaliste, et qui va considérer que l'arrivée des troupes allemandes en 1939 est une grande et bonne nouvelle pour le prolétariat belge, parce que l'on va pouvoir enfin créer précisément ce socialisme national qui va s'ouvrir. Donc, vous voyez que, voilà, c'est ce que j'ai voulu essayer de faire ici, c'est aujourd'hui cette espèce de montrer comment, hein, cette idée de socialisme national. Alors évidemment, quand on dit socialisme national, on passe au national-socialiste, hein, bon, c'est un peu réducteur, mais cette idée que, ma foi, ces deux idées de socialisme et de nationalisme, finalement, ne sont pas complètement opposées et qu'on retrouve à travers l'histoire, hein, plus ou moins évidente, ce genre de choses. Alors, j'en reparlerai aussi, Louis Dreyfus, dit, oui, mais attention, ce qui est intéressant en France, c'est que, en tout cas, de manière générale, c'est que jamais aucun parti de gauche n'a vraiment fait ce nationalisme national comme, évidemment, étendard principal. Par exemple, aucun parti de gauche n'a fait de l'antisémitisme et du racisme, on pourrait dire, un élément constitutif, je dirais, de son programme. Alors, il n'a pas complètement raison. En même temps, bon, on peut voir à certains moments qu'il y a des éléments qui ont un peu pu orienter. Bon, je me souviens, il y a quelques années, à peu près 40 ans, je sais, il y avait des discussions au sein du Parti communiste autour de ces questions-là. Il y avait eu des scandales avec des déclarations de Georges Marchais, qui était pas très loin de ces questions de la défense de l'ouvrier français contre l'ouvrier immigré, enfin en disant oui, mais c'est parce que ces immigrés viennent ici, et puis ils sont au chômage, et puis ils sont exploités, donc faut les empêcher de venir, etc., etc. Oui, d'accord, enfin bon, quand même un des trucs un peu comme ça. Alors, c'est vrai que il y a cette espèce de fusion, la fusion des deux a toujours été une fusion à droite, finalement. Hein, ça a toujours été quand même les thèmes, finalement, nationaux, nationalistes, qui ont pris le dessus, hein, à peu près systématiquement. C'est vrai. En même temps, on ne peut pas nier qu'il y a eu ces rapports un petit peu complexes et ambigus autour de ces questions. Merci.